Bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro du Labomatique, nous allons parler de sexe chez les animaux. Ah, je vois déjà tendre l'oreille intriguée. Non, le Kama Sutra des marmottes n'est pas à l'ordre du jour. Oui, nous allons parler de sexe, mais plus précisément de son rôle dans l'évolution des êtres vivants. Thierry Laudet, enseignant à Angers et chercheur en éthologie, comprenait études du comportement animal à Rennes 1, s'est spécialisé dans la sexualité. Ses origines, son but, tant de questions auxquelles il cherche des réponses. Nous aussi on a des questions, à commencer par se demander qui pratique le sexe et depuis quand.
Alors c'est ça toute l'originalité des théories que j'ai développées et des travaux qu'on a développés, c'est précisément d'arrêter de poser la question « le sexe est quelque chose qui servirait à l'évolution, qui offrirait un avantage » pour regarder à quel point ça n'offre aucun avantage. D'abord, on va dire que 95% des eucaryotes pratiquent le sexe, les champignons, les protistes, les animaux et les plantes, mais ils ne pratiquent pas forcément pour se reproduire. Le sexe, ça ne sert pas forcément à la reproduction. Ça, c'était la première notation. Mais il existe aussi autre chose qu'il faut remarquer, c'est que le sexe, c'est une entreprise extraordinairement compliquée. Si le but était de laisser son ADN, avouez qu'on a inventé là un dispositif complètement scandaleux. D'abord, on n'est que la moitié de ses gènes, dans le meilleur des cas. Les populations sont partagées en deux sexes. Alors, il faut trouver l'autre sexe pour que ça marche. Non seulement il faut trouver l'autre sexe, mais il faut encore que les individus soient compatibles et disponibles sexuellement. Il faut donc obtenir en quelque sorte leur consentement, leur offrir le restaurant. Enfin bref, c'est très 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 compliqué cette histoire. Et donc, en cherchant d'un peu plus loin, on peut se rendre compte que le sexe a une histoire beaucoup plus archaïque. En fait, d'un côté, on a les bactéries qui ne pratiquent pas le sexe. Alors, elles ont des petits éléments d'échange de gènes. Mais quand on parle de sexualité avec les bactéries, c'est quand même un petit peu exagéré dans la mesure où c'est une bactérie qui va avaler le gène d'une bactérie morte, par exemple. Ou alors que ce sont des échanges de petites particules qui vont durer juste le moment où les deux bactéries vont être accolées. Donc il n'y a pas vraiment de conjugaison, il n'y a pas vraiment de sexualité. La vraie sexualité, celle qui consiste dans la syngamie, dans la gamétogénèse, dans la recombinaison génétique, donc dans l'échange de gènes, elle n'existe que chez les eucaryotes. Et les eucaryotes ne font pas ça un petit peu, ils font ça tout le temps. Alors à l'origine, c'est relativement simple de comprendre d'où ça peut venir. Au départ, on avait très probablement sur cette planète des bulles de lipides contenant de l'ADN. On va simplifier à l'extrême pour les auditeurs et pour bien faire comprendre les choses. Ces petites bulles, certaines se sont baladées en surface, bombardées par les radiations, par les volcans, par le reste. Elles se sont enfouies plus ou moins dans la boue, dans ce qu'on veut. Bref, on a fabriqué des bactéries isolées parce qu'elles avaient besoin d'une paroi pour résister à toutes ces problématiques que posait la planète à l'époque. Dans le même temps, d'autres bulles sont tombées dans des creux, dans des endroits protégés de ces radiations. Par contre, elles n'étaient pas protégées d'une chose, c'est de la promiscuité. Toutes ces bulles étaient les unes avec les autres, or elles étaient plus ou moins moins étanches, plus ou moins étanches, plus ou moins capables, perméables en fait, voilà le mot que je cherchais. Et donc elles s'avalaient très facilement de l'ADN. Résultat, certaines bulles avaient trop d'ADN, d'autres en avaient plus du tout, donc elles ont disparu. Et les bulles qui avaient trop d'ADN ont dû inventer des systèmes pour réussir à survivre. Donc c'est simple, elles se sont débarrassées de l'ADN en trop, ça a été le début de la méiose réductionnelle. Ce début de la méiose réductionnelle, c'est le début de la sexualité, et seules les bulles qui ont su s'échanger de l'ADN et fabriquer cette méiose réductionnelle ont découvert qu'en modifiant son ADN, on arrivait à modifier son métabolisme. Les nouvelles enzymes qui arrivaient permettaient, etc. Et donc, ces bulles-là ont résisté. Je les ai appelées les bulles libertines, puisque ce sont les plus libertines qui ont vaincu les choses. Le sexe vient de là.
Le sexe nous oblige, finalement, à avoir des relations avec les autres.
Tout à fait. À partir du moment où le sexe s'est mis en place, probablement au départ, des êtres étaient probablement hermaphrodites au début, quand la pluricellularité s'est mise en place. Ces hermaphrodites ont fini par perdre l'un des deux sexes pour devenir des individus gonochoriques. Et cette obligation s'est faite petit à petit d'échanger des gènes. En fait, même chez les hermaphrodites, l'échange de gènes est obligatoire. Alors, regardez bien, on a deux types de choses. On a d'un côté la capacité de se reproduire, y compris de manière végétative, ça existe même chez les animaux. Les vers sont capables de le faire, de se reproduire de manière, en se coupant en morceaux, avec des autotomies, etc. Et de l'autre côté, la sexualité qui fait surtout l'échange de gènes. Et ça oblige à quelque chose d'inouï, la sexualité, c'est que si on veut laisser des descendants, il faut être deux. Donc, il faut commencer à avoir des relations. Ça met en jeu toutes les relations sensorielles, et je soupçonne qu'au départ, les nos fameuses petites bulles, n'avaient comme relation avec leur environnement que la capacité de manger. On est prédateur ou pas, on mange. Et puis, avec le sexe, on va commencer à faire apparaître une nouvelle sensation, des protéines de sensibilité, pour comprendre qu'en face de nous, il y a de l'autre. Et bien, c'est à partir de ces éléments d'une première sensibilité primitive que les organes et les corps vont se former, vont développer encore plus cette sensibilité, et cette sensibilité va servir à rencontrer les autres, elle va servir à avoir des interrelations.
Donc il faut bien faire la distinction entre reproduction et sexualité. Et donc quel est le but de comprendre justement la sexualité chez les êtres vivants ?
Eh bien, si on regarde cette histoire, on comprend déjà que l'évolution est une histoire et pas un processus. Qu'elle est une histoire, qu'elle s'est passée avec des moments particuliers, qu'il y a eu des moments où il y a eu des choses qui se sont passées. Par exemple, l'endosymbiose des mitochondries, l'endosymbiose des chloroplastes. C'est un moment, ça s'est passé une fois, point final. Il y a d'autres moments où se sont passées des catastrophes. Bon, prenons l'exemple du Crétacé tertiaire. Bon, tout le monde connaît l'arrivée de cette fameuse comète qui aurait détruit les dinosaures. On s'aperçoit que tous ces événements ont existé sans être des événements darwiniens et qu'il y a d'autres événements non darwiniens qui existent dans toutes ces séries-là, les échanges de gènes horizontaux, dont la sexualité est un des exemples archaïques, mais qui s'est modifié avec le temps, qui s'est transformé, les hybridations, qui sont des événements également souvent non darwiniens, et tous ces événements particuliers vont envahir l'espace évolutif, en quelque sorte, pour faire raconter cette histoire. Et on s'aperçoit qu'au bout du compte, ce qu'on avait pris pour l'élément essentiel de l'évolution, la sélection darwinienne, elle ne concerne très probablement que des individus depuis quelques milliards d'années seulement, alors que beaucoup d'événements non darwiniens ont existé pendant des milliards et des milliards d'années, et que donc il va falloir faire maintenant preuve d'une autre étude qui va mettre en œuvre la compréhension des relations que les individus ont entre eux, relations qui sont multiples, qui forment ce qu'on appelle une écologie évolutive, on est tous pris dans un réseau d'interaction, une espèce de château de cartes. Et quand ce château de cartes est fragilisé, tout le monde disparaît en même temps. Le château de cartes des humains, c'est les rhinocéros, les tigres, les éléphants. Et si ce château de cartes est abîmé, nous disparaîtrons avec eux. Les scorpions, probablement, ils ont un autre château de cartes dans lequel ils tiendront encore le coup. Bref, la compréhension des interrelations devient importante. Or, Darwin n'avait insisté que sur une seule interrelation, la concurrence. C'est une interrelation qui finit mal. La concurrence, c'est une interaction négative. Toutes les interactions ne sont pas négatives. Il y a par exemple les interactions, elles sont ambivalentes en fait. Non seulement il y en a des plus positives que d'autres, mais même si on prend la pire des interrelations, la prédation. Bon, quand un putois mange un lapin, ça finit mal pour le lapin. On est d'accord, ça ne peut pas être pire comme relation qu'on puisse avoir avec les autres. Eh bien, dans la réalité, c'est pas comme ça, c'est ambivalent. Car un putois ne peut pas manger un lapin qui pèse 2 à 3 kilos alors que lui n'en pèse que 1 kilo facilement. Pour manger un lapin, il faut que le lapin soit malade. Généralement, il mange des lapins au moment de la myxomatose, ce qui veut dire qu'en mangeant le lapin malade, le putois va aider les populations de lapins à réduire la diffusion de la myxomatose. Donc, il n'y a pas de relation négatif comme le pensait Darwin, il n'y a que des relations ambivalentes, bonnes, mauvaises, et c'est ces interrelations qui fabriquent l'écologie du monde, qui fabriquent le monde. Nous sommes dans une écologie évolutive, il faut donc repenser totalement la théorie évolutive à l'aune d'une nouvelle théorie qui synthétiserait des événements non darwiniens, lamarckiens, des événements qui sont de plus en plus pris en compte par les chercheurs cellulaires notamment, mais pas assez par les chercheurs évolutifs. Et modifier totalement notre principe d'envisager la théorie et la sexualité nous permet de comprendre ça.
La théorie dominante, c'est le néo-darwinisme. Donc, pouvez-vous un peu nous rappeler cette théorie et en quoi justement elle comporte des limites ?
Alors, le darwinisme, d'abord, comprend beaucoup de limites à cause de cette théorie de la concurrence. Il comporte tellement de limites qu'on l'a un petit peu masqué pendant les années 20 à cause de son eugénisme épouvantable. Il faut relire, par exemple, la traduction qu'en avait fait Clémence Royer en France en disant que c'était merveilleux de supprimer les malades et les pauvres, etc., pour comprendre à quel point cet eugénisme a été important. En France, on a un peu échappé à l'eugénisme grâce au fait qu'il y avait beaucoup de lamarckisme. Ou à cause, parce que c'est pas forcément non plus des bonnes choses, les lamarckiens d'époque. Toujours est-il qu'à 1940-1960, on a réinventé ce qu'on a appelé le néo-darwinisme, c'est-à-dire on a mis de la sélection naturelle, on a mélangé ça avec la théorie de l'information génétique et on a inventé une théorie qui a fait ses preuves, qui a eu beaucoup d'intérêt pendant des années et des années. Mais là, on arrive au bout de cette théorie. Elle commence à rompre de partout, à tel point que même les néo-darwinistes finissent par donner une définition de l'évolution qui n'est plus une définition darwinienne. Ils ne nous disent plus l'évolution, c'est la sélection naturelle des meilleurs ou des plus forts, ils ne nous disent plus c'est la sélection des individus grâce à de la concurrence. Non, ils nous disent maintenant, c'est la modification des flux de gènes. Or, c'est exactement ce que disait Lamarck de son temps quand il disait que c'était la modification de l'histoire des animaux et en fonction des circonstances. C'est-à-dire qu'on est dans une définition totalement lamarckienne et on nous parle de théorie darwinienne. Donc, il faut remettre un peu tout ça à plat, recorriger tous ces éléments-là. Enfin, je fais partie de ceux qui le pensent. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a en France, par exemple, quelqu'un comme Didier Raoult qui, avec la découverte des mimivirus, arrive quasiment aux mêmes conclusions que moi. Des messieurs comme André Langanet qui commencent à se poser ces questions-là. Et à quelques-uns, on essaie de faire bouger les lignes pour enfin comprendre qu'il serait peut-être temps d'arrêter de rendre héroïque le personnage Darwin pour en refaire un chercheur parmi les autres au sein d'une théorie évolutive qui est beaucoup plus riche, avec des remarques beaucoup plus poussées que cela. On a eu par exemple Stephen Jay Gould avec sa découverte des équilibres ponctués qui a remis en cause plein de choses, sans pour cela que la théorie évolutive s'écrase. Hein. Donc au contraire, on a fait progresser les choses, bien que sa théorie n'était pas du tout darwinienne, elle contredisait la génétique de l'époque. Et donc on voit bien qu'il faut modifier tout ça, corriger tout ça, et c'est un champ qui s'ouvre devant les étudiants qui est fantastique, parce que nous, on est des vieux, on vient juste de pousser la porte, c'est tout ce qu'on sait faire, mais maintenant, il y a tout à refaire, tout à revoir, tout à reconstruire, et comprendre comment on peut synthétiser toutes ces approches-là.
Juste avant, vous avez parlé d'hybridation. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est les hybridations, et ce qu'elles viennent faire dans l'évolution ?
Alors, c'est ça qui est assez fou, c'est que pendant longtemps, on pensait que les hybrides n'existaient pas, ou presque pas. On finissait par en trouver chez les plantes, c'était donc des mélanges, des individus d'espèces théoriquement différentes qui finissaient quand même par avoir des descendants. Et ces descendants pouvaient être viables. On a pensé qu'à chaque fois, l'hybridation, ça devait conduire à des descendants non viables, donc à des impasses évolutives. Et puis, on en a tellement découvert et tellement plus que maintenant, on sait qu'il y en a partout. En fait, même les mammifères, c'est-à-dire quand même les animaux a priori apparus les plus récemment, ceux qui sont les plus étanches à tous ces phénomènes-là, reçoivent aussi bien des transferts de gènes horizontaux que des hybridations. Et même les humains ont des gènes de furet, ils ont des gènes de singe, on a des gènes de Néandertal dans l'ouest de la France, par exemple, et on a des gènes de Denisovien si on est ailleurs, etc. On a des introgressions génétiques, c'est-à-dire que des paquets de gènes, des petits morceaux de gènes, sont passés et sont restés dans ce qu'on appelle notre patrimoine, grossièrement. Alors si on comprend que ces mécanismes là se sont faits, on voit bien qu'on a volé des gènes un peu à gauche à droite, que nous sommes issus d'une mosaïque de gènes, non pas d'un ancêtre unique. Contrairement à l'hypothèse d'une évolution qui partait d'un tronc avec un arbre qui buissonnait de plus en plus, c'est exactement l'inverse. Pour cela, d'ailleurs, il suffit de se rappeler que vous-même, vous avez probablement deux parents, que vous avez probablement quatre grands-parents, etc., etc. Et on s'aperçoit que bien que le buisson, il est totalement à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un mécanisme simple, on est au contraire dans un mécanisme complexe où tous les êtres vivants s'échangent des gènes, plus ou moins bien. Et la plupart du temps, en fait, les espèces ne sont pas du tout fermées. Elles sont extraordinairement poreuses et ça fait partie de l'évolution. Par exemple, les lièvres, je raconte ça dans mon livre, les lièvres sont capables non seulement de se tromper, de tricher, puisque c'est ça le titre du livre, pourquoi les animaux trichent et se trompent, mais ils sont capables d'incorporer les gènes d'une dizaine d'espèces. Le canard colvert, c'est pire. Il est capable de s'hybrider avec 125 espèces. Donc on voit bien que l'hybridation, ça fait partie du vivant.
Donc faut-il revoir une définition de l'espèce ? Par exemple, si on prend la définition de Mayer, qui dit qu'une espèce est une population où les individus peuvent se reproduire et avoir une descendance fertile. Donc faut-il repenser les définitions en écologie ?
Oui, bien entendu, puisque cette définition de Mayer correspondait à l'invention du néo-darwinisme dans lequel il fallait qu'il y ait une espèce. Le néo-darwinisme est d'abord une biologie spécifique. Darwin lui-même a parlé de l'origine des espèces, même si lui, il n'y croyait pas trop quand même. Depuis qu'on a inventé cette définition d'espèce, il y en a eu 25 autres. Il y a 25 chercheurs au moins qui se sont dit non, ça va pas. Et puis on a épilogué sur toutes ces espèces. En fait, on sait très bien qu'une espèce, ça a une existence, on va dire, visuelle. Ça a une existence géographique, éventuellement. On peut la voir, on peut voir que ça existe, un vison d'Europe ou un putois. Mais dans la réalité, leurs échanges génétiques sont tels qu'on n'a pas de définition stricte permettant de dire qu'une espèce va être isolée d'une autre. Cet isolement, elle est liée qu'à un seul phénomène, celui de la séduction et celui du consentement. Alors le consentement, c'est un grand mot que j'utilise exprès pour bien montrer les choses. Évidemment, chez les plantes, ce consentement, il est plus subtil, il est moins volontaire, mais il se passe quand même. Les espèces vont soit accepter de se séduire, et du coup, elles forment un ensemble qui n'est pas spécifique, hein, qui est polyspécifique le plus souvent, soit au contraire, elles arrêtent de se séduire, et là, du coup, peut-être qu'en effet, des isolements peuvent se réaliser. Mais ces isolements sont momentanés, ils dépendent du nombre de partenaires, des capacités du temps, des circonstances, en quelque sorte. Et donc, ces processus de séduction, on le retrouve encore dans la sexualité. On voit à quel point la sexualité est le fondement même de tout le processus évolutif des eucaryotes au moins.
Les espèces ont besoin de se séduire. Et comment cela fonctionne? Y a-t-il des règles, on va dire, dans la séduction, ou suivant les espèces, ça diffère?
Alors ça diffère selon toutes les espèces, il n'y a aucune règle dans l'évolution. La seule règle, c'est de provoquer, de faire varier les choses, de participer à cette grande variation, à cette biodiversité. Et tous les amours sont possibles dans cette biodiversité. On a des espèces qui sont... toutes les conduites sexuelles existent. Il n'y a pas d'espèces qui ne vont pas choisir telle et telle conduite sexuelle. Même des lézards capables de se reproduire, comme les lézards parthénogénétiques, font de l'homosexualité entre elles. Ce sont des femelles, etc. Donc on n'a pas, d'ailleurs souvent on a cru comparer la sexualité avec la non-sexualité et on l'a comparé avec la parthénogénèse. Or la parthénogénèse ce sont des femelles, donc elles sont sexuées, il faut arrêter de croire des choses comme ça, enfin de donner des mauvais mots à des choses qui sont vraies, il faut être plus rigoureux dans ce type de définition. Mais en effet, il n'y a pas de loi à la sexualité sauf la loi de la rencontre, c'est-à-dire que ça exige le fait de séduire l'autre, ça ne va pas être sur des bases raisonnables, hein, pas plus chez l'humain que chez le ouistiti ou que chez le lapin de Garenne. À chaque fois, si on est amoureux, on ne sait pas pourquoi. Si je vous dis que je suis amoureux de quelqu'un parce qu'elle a une grosse Mercedes et un bon compte en banque, vous verrez que ce n'est pas vraiment de l'amour. Donc ça va au-delà de cela. En fait, tout ça part d'une sensibilité extraordinairement primitive. Cette sensibilité qui a fait que des cellules, à un moment donné, des bulles prébiotiques même peut-être, ont commencé à inclure des protéines de sensibilité pour comprendre leur environnement. C'est très matériel tout ça. Ce sont des protéines, ce sont des odeurs, ce sont des mécanismes extraordinairement matériels qui nous ont conduit petit à petit à favoriser le fait d'être différents les uns des autres. Car en effet, si mon système immunitaire est différent du système immunitaire de ma partenaire, nous aurons beaucoup plus de chances de nous séduire parce que cette différence-là va faire que nos descendants seront aussi différents. Et on est assoiffé de cette variation, de cette différence. Alors, dans des limites raisonnables, ces limites, ce sont la compatibilité génétique. Mais l'échange principal va se faire entre individus qui vont présenter assez de différences pour engendrer cette diversité. Alors, on ne cherche pas autre chose que la différence, parce que c'est la différence qui nous séduit. Ça fonctionne comme ça, les phéromones nous fabriquent dans la différence.
C'était The Liminanas avec Kinam Baby. De retour avec Thierry Laudet qui cette fois nous donne des précisions sur les comportements volages des animaux.
toutes ces infidélités, toutes ces copulations hors couple, en plus, on ne les connaît souvent qu'à travers de la génétique. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a mesuré les descendants qu'on s'est rendu compte de ça. Ce qui veut dire que probablement, on ne connaît vraiment que la toute petite partie de l'iceberg réel. Les individus vont essayer de milliards de fois pour arriver à ce que génétiquement, il y a de la production. On peut être infidèle sans laisser des descendants, par exemple. Eh bien, cette problématique est essentielle parce que c'est à travers elle qu'on comprend que justement, les espèces ne sont pas là pour faire des descendants. D'ailleurs, il n'y a aucune fonction qui existe dans la nature. On n'a pas des jambes pour marcher, on n'a pas des yeux pour voir et on n'a pas des gènes pour se reproduire. Dans la réalité, il n'y a pas de fonctionnalisme à développer ou de téléologie à développer dans l'évolution. Ce qu'on constate surtout, c'est qu'au départ, on avait des théories pour essayer de comprendre ça. On disait si les femelles trompent les mâles, c'est parce que les mâles ne sont pas assez beaux ou qu'un mâle plus séduisant est arrivé. Ça marche de temps en temps. Heureusement, si un mâle plus séduisant arrive, on peut le tromper. On disait aussi si les mâles partent, c'est parce que la femelle n'est pas bonne, elle produit moins. Donc là aussi, ça marche un peu. Mais surtout, ce qui est effarant, c'est le nombre de cas où ça ne marche pas. Et donc, c'est ça qu'il faut souligner, car quand il y a des cas qui ne marchent pas sur une théorie, c'est que la théorie n'est pas bonne. Tout simplement, c'est-à-dire qu'elle est plurielle. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Par exemple, chez beaucoup de manchots, les divorces conduisent à l'échec total de la reproduction. Chez 80% des marmottes, le divorce conduit à l'échec de la reproduction. Donc, on ne peut pas dire qu'elles font ça pour avoir une meilleure reproduction. Bien au contraire, elles préfèrent ne pas garder une relation qui ne va pas bien, une relation qui tourne mal, une relation mal consentie, on pourrait dire si on parlait d'humain, plutôt que tenter quand même de sauver leur reproduction. Donc elles préfèrent ne pas faire de petits, ne pas avoir de descendance, plutôt que de risquer d'être mal appariées. Et c'est là où on voit l'importance énorme de l'écologie. Car en effet, nous dépendons tous les uns des autres, nous dépendons tous des relations. On dépend des relations que le ver de terre est en train de tisser avec nous, parce qu'il est en train de manger le sol. On dépend des relations que l'abeille est en train de tisser avec une fleur, parce qu'on n'aura pas de légumes pour manger. Et sous cet ensemble de relations, construit un ensemble fabuleux d'interrelations qu'on appelle l'écologie. Et c'est pour ça que je dis bien que je fais de l'écologie évolutive, moi, et pas de la biologie évolutive, parce que ces interrelations ont une importance capitale. C'est une force structurante. Toutes ces forces, toutes ces interrelations constituent une force structurante dans laquelle chacun trouve sa place de manière ambivalente. C'est jamais quelque chose de tout noir et de tout blanc. On est tous ambivalents. Si on est copain avec quelqu'un, on peut être méchant le lendemain. Si on est amoureux de quelqu'un, on peut ne plus être amoureux le lendemain. Si on est concurrent avec quelqu'un, on peut être partenaire le fois d'après, etc. etc. Les parasites peuvent être mauvais, peuvent être bons. Par exemple, nos bactéries symbiotes, c'est probablement au départ des parasites qui sont devenus qui ont tourné bien, quoi, en quelque sorte. Et c'est jamais définitif. Tout ça, ce sont des événements provisoires qui se déroulent devant nos yeux et qu'on appelle l'évolution. Et c'est de l'écologie.
Justement, nous, qu'on parle d'amour, on parle de sentiments. Comment se retranscrivent ces sentiments chez les autres êtres vivants? S'il y a des sentiments et s'il y a des preuves de sentiments?
Alors j'utilise beaucoup le mot amour parce que c'est un mot qui évidemment parle aux humains. Dans la réalité, il faut reconnaître que l'amour de l'écrevisse, c'est probablement pas aussi développé qu'on pourrait croire. Il n'empêche que les relations de sensibilité que les êtres vivants ont les uns par rapport aux autres vont construire petit à petit tout un ensemble de phénomènes. Au départ, on a une espèce de sensibilité, c'est des protéines qui sont sensibles à l'extérieur. Puis on va développer grâce à ces éléments, ces protéines, ces neurotransmetteurs, des émotions. Et ces émotions peuvent se transformer en émotions amoureuses, c'est-à-dire petit à petit en sentiments amoureux. Le sentiment amoureux, c'est un attachement qu'on a envers l'autre. Bon, ça peut être une période très très courte, on peut être amoureux quelques heures si on est un ver de terre, et on peut être amoureux beaucoup plus longtemps si on est un goéland ou un albatros, par exemple. Mais c'est pas très grave. Ce qui compte énormément dans tout ça, c'est de voir qu'à chaque fois, quelque chose nous dépasse, le mécanisme de séduction dépasse notre raisonnement, dépasse notre manière d'être, le mécanisme de recherche de la différence nous dépasse aussi, on n'est pas capable de le comprendre on le vit simplement au jour le jour, et les relations qu'on établit avec les autres nous dépassent aussi, car le fait d'être déjà deux, ça conduit à beaucoup plus de relations, ça laisse beaucoup d'espace pour d'autres, pour 3, pour 4, pour 20, et ça va construire aussi probablement la vie sociale, ça va construire tous les systèmes, l'écologie des systèmes. Et ce qui est remarquable, c'est de voir à quel point les comportements animaux, puisque moi je suis parti des comportements, même si au départ j'étais généticien, je suis reparti des comportements, ce sont à partir des comportements qu'on va comprendre justement qu'il n'y a pas quelque chose d'individuel, mais qu'à chaque fois les éléments se transforment dans des interrelations, des interactions qui vont multiplier tout cela et qui vont aboutir à une écologie, à des choses très matérielles, il n'y a rien de plus matériel finalement que des comportements. Ce ne sont pas des gènes qui s'expriment dans des comportements. Au contraire, les comportements vont modifier même notre structure génétique à travers le fait d'utiliser des outils. Par exemple, quand on n'a pas les organes qu'il faut, vous voyez, on est capable de modifier tout un ensemble de choses. Le comportement est ici l'un des éléments qui m'a donné à moi la clé pour comprendre le système évolutif. Alors, peut-être que ce n'est pas lui le moteur de l'évolution, n'empêche que ça mériterait d'être fouillé, cette théorie-là, cette idée-là. Prenez par exemple le cas des lézards parthénogénétiques. On a affaire à deux femelles. Et bien, de ces deux femelles, l'une va se comporter en mâle. Pourtant, elle n'a pas de chromosome Y, elle n'a pas de gène de mâle, mais elle est capable d'avoir un comportement mâle. Et ça se retrouve chez plein d'espèces comme ça. Ça veut donc dire que le comportement sexuel, entre guillemets, a probablement été existant avant même qu'on soit mâle ou femelle. Bon, c'était le cas chez les paramécies, c'était le cas chez d'autres espèces. Mais c'est fantastique de penser ça, qu'on puisse avoir pas de gènes et pourtant être capable de développer des comportements qui sont comme ça. Alors, c'est David Cruz hein, qui a découvert le comportement mâle chez ces lézards parthénogénétiques. Mais on voit à quel point la relation qu'on croyait très ferme entre les gènes et quelque chose ne l'est pas autant. Là encore, si on prend le gène comme un livre de cuisine qu'on établit pour faire une recette, vous pouvez, avec le même livre de cuisine que moi, faire un gâteau au chocolat. Moi, le mien, ça ne sera pas forcément le même gâteau. Ce qui compte dans l'évolution, ce n'est pas le gène, c'est l'expression du gène. C'est un peu compliqué, mais j'espère que les auditeurs comprendront la différence. Quand on fait deux gâteaux au chocolat, ce n'est pas les mêmes.
Du coup, la relation est au cœur de l'évolution. Mais existe-t-il des espèces qui soient plus solitaires ou voilà, qui ne vivent pas forcément en groupe ? Et comment ça s'explique ?
Alors, le fait d'être individualiste, de vivre de manière solitaire, entre guillemets, signifie pas qu'on est solitaire. Un putois qui vit tout seul dans la nature, il sait parfaitement que sur le territoire d'à côté, il y a Jules et que sur le territoire d'à côté, il y a Marguerite qui va être bientôt disponible sexuellement. Ils le savent à travers des réseaux d'odeurs, des réseaux de parcours, etc. De la même manière, la plupart des plantes savent très bien s'il y a une plante qui souffre à gauche ou pas, si une plante subit un stress ou ne le subit pas. Tous ces éléments-là ne signifient pas qu'il y a besoin de grands systèmes nerveux pour qu'on ait une sensibilité sur les choses. Nous sommes dépendants les uns des autres. Alors, cette dépendance ne nous conduit pas forcément à une pertinence. Par exemple, le fait que je sache que je suis dépendant de l'abeille et de la fleur ne signifie pas que nécessairement, quand je vais voir une abeille ou quand je vais voir une fleur, ça va être pour moi immédiatement pertinent et que je vais dire « Oh, qu'ils sont beaux, ils font partie de mon monde, etc. » Non, les interrelations sont tellement complexes, elles sont tellement multiples qu'elles nous façonnent notre monde, elles nous le construisent et tous les êtres vivants sont en interrelation. Certains d'entre eux vont tellement avoir soif de ces interrelations qu'ils vont utiliser effectivement la relation directe avec les autres. Ce sont les animaux qu'on appelle en général sociaux, même si tous les autres le sont aussi. Hein. Tous les autres ont des relations sociales, même si elles sont indirectes. Là, ce sont des relations sociales directes, grégaires par exemple, ou encore carrément des sociétés hein, qui vont s'organiser. Et là, ça va dépendre de la manière de gérer chacun les conflits, parce que avoir des relations, c'est bien, mais c'est pas neutre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ambivalent. On peut être sympa, mais on peut avoir des conflits. Et toute cette relation-là va se construire et on essaye sans arrêt d'essayer de vivre ensemble. L'un des grands buts des êtres vivants sur la planète, c'est d'abord de survivre, hein, de ne pas mourir et d'être capable de survivre au milieu des autres, en sachant très bien que si on tue les autres, eh bien on se tue un peu nous-mêmes.
Vous parlez de divorce, d'amour, de société. N'avez-vous pas peur qu'on vous targue d'anthropomorphisme ?
Alors, je revendique cet anthropomorphisme. En effet, on m'a... De tout temps, depuis mon premier bouquin, la guerre des sexes chez les animaux, targué d'un peu d'anthropomorphisme. Qu'est-ce que c'est que l'anthropomorphisme ? C'est le fait de donner des noms qu'on connaît en fait à travers notre vision humaine des choses. J'ai beau être chercheur, de toute façon, ma vision reste une vision humaine. C'est-à-dire que de toute façon, je suis un humain. Je ne peux pas faire autrement que de plaquer mon raisonnement. Alors, je peux faire semblant de ne pas le faire. Mais si je fais semblant de ne pas le faire, est-ce que je suis plus honnête que si je dis, écoutez, moi, je vais appeler ça amour parce que je ne sais pas exactement ce que c'est. Je suis incapable de donner une vraie définition qui ferait la différence entre l'amour humain et l'amour d'un chien ou autre chose. Et comme je ne suis pas capable de faire cette définition différente, je sais qu'elles sont spécifiques, hein, je sais très bien que l'humain il a ses spécificités, que le singe il a ses spécificités, que l'écrevisse a ses spécificités, je ne les mélange pas du tout. Mais il n'empêche qu'on retrouve à chaque fois, à mon sens, plutôt un gradient d'intensité plutôt qu'une réelle variation particulière. Bon, je ne confonds pas un chimpanzé avec mes amoureuses, rassurez-vous. Il n'empêche que je sais parfaitement voir dans le regard d'un orang-outan ou d'un chimpanzé une émotion grandiose.
Donc la théorie dominante est toujours le néo-darwinisme, mais est-elle en train d'être critiquée ou reste-t-elle toujours dominante ?
Elle craque de partout, hein, le néo-darwinisme craque de partout. Disons que le néo-darwinisme actuellement le plus rigoureux, le plus orthodoxe, c'est celui qui est qui a été inauguré par Dawkins, qui suivait les grandes lois qu'avait développé Wilson sur la sociobiologie. Donc Richard Dawkins et son gène égoïste sont vraiment les éléments les plus rigoureux. Alors il y a des critiques qui se font à l'intérieur du néo-darwinisme. On voit par exemple Rogardon qui vient de publier Le gène généreux, en critiquant la théorie de Dawkins, critique en fait le néo-darwinisme en disant qu'il faut faire une petite place à la relation. Et puis d'autres qui vont beaucoup plus loin, comme Eugène Cunin, qui a publié en 2009 que c'était fini, que le néo-darwinisme était mort. Sans parler évidemment de tous les chercheurs qui font de la biologie cellulaire et qui ont mis en évidence l'existence de transferts de gènes horizontaux, qui ont mis en évidence des phénomènes d'épigénétique, etc. Et qui s'aperçoivent très très bien qu'une grande partie des phénomènes biologiques qui ont duré pendant des milliards d'années n'ont pas été darwiniens. Et donc, le néo-darwinisme craque parce qu'il y a d'autres événements. Je ne pense pas que ça signifie qu'il faut refuser la sélection naturelle. Pour moi, c'est une relation qui a mal tourné et qui existe. Elle est évidemment un élément clé. Mais il faut placer la sélection naturelle au sein d'un ensemble qu'on appellerait les interrelations. Et c'est dans ces interrelations qu'il y a la sélection naturelle, c'est-à-dire la concurrence, hein, en quelque sorte, et d'autres. Et puis arrêtez aussi de faire croire que Darwin n'a jamais parlé de concurrence, n'a jamais été eugéniste. Arrêtez de faire croire qu'il n'a pas parlé de la survie des meilleurs, hein, survival of the fittest, c'est dans le texte lui-même de Darwin. Et donc arrêtez de mentir aussi sur Darwin. Essayez de regarder de plus près ce qu'il a écrit réellement, s'apercevoir qu'en effet c'est un homme de son temps, que ce temps il est révolu, et que faire du néo-darwinisme maintenant, ce n'est pas faire de l'évolution darwinienne, c'est juste parler de modification de gènes. Mais modifier des gènes, parler de gènes qui se modifient, ou de patrimoine génétique, entre guillemets, parce que là aussi mon patrimoine, il vient quasiment d'une notion de l'hérédité qui est très archaïque, hein, qui est pleine de notions, on va dire, idéologiques. Il faut arrêter de considérer tout cela comme cela, et commencer à revoir toute la théorie évolutive en comprenant que les relations sont partout, que l'évolution n'existe pas sans les interrelations entre les individus, que l'écologie c'est d'abord des interrelations et que la planète elle est faite de ces interrelations, que le climat joue un rôle, que la géologie joue un rôle, que les catastrophes jouent un rôle, enfin bref, il y a tellement de choses qui jouent un rôle qu'il faudrait une théorie un peu unifiée qui arrête de nous faire croire qu'il faille totalement être orthodoxe. Parce qu'il y a aussi ça dans le néo-darwinisme, c'est que si on dit qu'on n'est pas néo-darwinien, paf, on est carrément dans l'orthodoxie, on nous qualifie presque tout de suite de, voire de créationniste, si ce n'est pas pire, ce qui est quand même un monde. C'est à cause de ces étroites limites du néo-darwinisme qu'il faut s'en sortir et arrêter de dire que cette orthodoxie-là, c'est la réalité de la théorie évolutive. Non, il y a beaucoup de chercheurs, hein, franchement, depuis la découverte notamment des transferts de gènes horizontaux, mais il y en avait avant avec l'endosymbiose. L'endosymbiose, voilà encore un mécanisme qui s'est passé une fois dans l'évolution, un mécanisme unique qui n'a rien à voir avec un mécanisme de sélection naturelle. Et donc, tous ces éléments, on est bien obligé de les incorporer. Donc, puisqu'ils existent, ben, regardons-les pour de vrai et arrêtons de considérer que le gène est égoïste. Monsieur Dawkins se s'est trompé.
Pouvez-vous juste rappeler brièvement ce qu'est une endosymbiose ?
Alors l'endosymbiose, c'est le fait que dans nos cellules, on a des petites bactéries, des alpha-bactéries qui probablement se sont intégrées à un moment donné de l'existence, probablement au moment, par exemple, où il y a eu une oxydation importante de la planète, de l'oxygène, eh bien, nos cellules eucaryotes se ont incorporé des cellules qu'on appelle maintenant les mitochondries. C'est probablement des bactéries qui ont tellement participé à nos cellules que maintenant, si on enlevait les mitochondries de nos cellules, on ne survivrait pas, quoi. C'est ce qu'on appelle une symbiose, hein. Donc endo, puisque c'est à l'intérieur de la cellule. Pour les végétaux, c'est pareil. La botanique, elle a été inventée parce que des petits bonhommes verts, les chloroplastes, se sont insérés au sein de cellules qui sont devenues les végétaux. Et sans les chloroplastes, pas de photosynthèse. Donc cette endosymbiose, elle est étroite. Probablement qu'il y en a d'autres, hein. Je pense que le noyau cellulaire n'est pas une endosymbiose. D'autres théories disent que c'en est. Là aussi, ça se discute, hein. J'ai publié une autre théorie sur le noyau cellulaire dans le Journal of Molecular Biology il n'y a pas très longtemps. Mais il n'empêche que tous ces éléments montrent que des phénomènes uniques se sont passés à un moment donné de l'évolution et qu'ils ont eu une importance capital pour le reste du vivant. Il ne faut quand même pas balayer ça d'un trait de main en disant « Oh, c'est pas darwinien, donc ça n'existe pas ». Exagérons pas, quoi. Ça fait partie de l'évolution.
Justement, sur quel point voudriez-vous que les recherches se focalisent dans le futur pour, du coup, améliorer cette théorie de l'évolution ?
Alors, il ne s'agit pas d'améliorer la théorie de l'évolution. Il s'agit réellement de retravailler, à la comprendre et à réécrire tout ce qu'on sait. Parce que tout ce que je dis, on le sait déjà. Plein de gens le savent déjà, mais ils font comme si ça comptait pas dans la théorie de l'évolution, ou du moins comme si c'était des petits à côté. Je ne pense pas qu'il faille se focaliser, bien au contraire. Je crois qu'il faut faire l'inverse. Il faut arrêter de penser qu'on fait des recherches qui ne soient pas à la lumière de l'évolution. Il ne devrait pas y avoir une recherche en médecine, une recherche en biologie, à l'INRA ou n'importe où, qui ne se fasse pas à travers la compréhension de l'évolution. Par exemple, on ne peut pas chercher des nouveaux antibiotiques. La théorie, elle était un peu stupide, c'était ou des anti-pesticides. La théorie, elle était simple, on prenait la sélection naturelle, on allait tuer toutes les bactéries, etc. On s'aperçoit que c'est pas vrai, que c'est pas comme ça que les choses fonctionnent, et qu'il faut au contraire maintenant approcher d'une écologie des bactéries, approcher d'une écologie des parasites. On le voit bien puisqu'on commence à réintégrer des... on fait des lâchers inondatifs, par exemple, vous voyez, de concurrents ou de prédateurs des parasites sur les plantes, etc. Donc on voit bien qu'on est à la porte de quelque chose de nouveau. Alors on fait ça encore un peu dans le désordre parce qu'on n'a pas tout compris et donc il faut vraiment que les recherches partent dans tous les sens. Il faut laisser la plus grande liberté possible aux chercheurs pour qu'ils partent dans tous les sens et qu'ils intègrent dans tous les sens tous les éléments qu'ils savent. Et surtout, que jamais un chercheur ne puisse publier quelque chose sans qu'il dise, voilà, d'un point de vue évolutif, ce que ça signifie. Il n'y aura jamais rien de clair si on ne se place pas dans le cadre de l'évolution de la planète. C'est simple, hein, les êtres vivants descendent de cette évolution, nous dérivons d'une évolution particulièrement complexe, hein, avec des tas d'interactions. Alors prétendre qu'on serait capable de découvrir, je ne sais pas moi, quelque chose sans qu'on replace ça dans le contexte évolutif, ça ne va pas. En revanche, Il faut arrêter de se focaliser sur des interprétations. On a découvert le gène de l'homosexualité, on a découvert le gène du criminel né. Ce sont des foutaises. On n'a pas découvert des gènes. D'ailleurs, on voit bien maintenant à travers le décryptage du génome humain, on découvre souvent des maladies. On découvre souvent que des gènes fonctionnent mal, entre guillemets. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement le gène, c'est son expression. Il faut arrêter de considérer qu'il y aurait une espèce de base comme cela qui serait acquise pour un temps infini. C'est pour ça qu'il faut revoir le néo-darwinisme. Parce qu'il nous emprisonne. Il nous emprisonne dans l'idée que le gène serait l'alpha et l'oméga du vivant. Et il nous emprisonne dans l'idée que si on dit que ce n'est pas darwinien, ça y est, on jette un anathème quoi, contre nous dès qu'on dit ça. Alors que ce n'est pas vrai. Une catastrophe, ça n'a rien de darwinien. Hein. Une comète qui tombe, c'est pas de la sélection naturelle. Ou alors, si la sélection naturelle, c'est le fruit des circonstances, je vous dis, c'était la définition de Lamarck. Donc, pourquoi dire que c'est darwinien? Vous comprenez tout ça? Donc, partir tout azimut avec des jeunes chercheurs qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont capables de se libérer de la théorie, un peu comme on a fait en physique, faire une véritable révolution épistémologique, comme on l'a fait en physique, en modifiant tout. On n'est pas resté à Newton, quoi, en physique. Nous, il serait peut-être temps qu'on abandonne des idées du 19e.
C'est la fin du Labomatique. Si vous voulez en savoir plus sur la sexualité des animaux et son importance dans l'évolution, sachez que le livre de Thierry Laudet, Pourquoi les animaux trichent et se trompent, est sorti aux éditions Odile Jacob. Vous pouvez également retrouver d'autres informations et le podcast de l'émission sur radiocampusrennes.fr. Quant à moi, je vous dis à une prochaine.